Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec toute notre équipe, Perrine Suquet, Margot Agnès. Aujourd'hui c'est André Facetta qui est aux manettes de cette émission. Et à la une, vous l'avez peut-être entendu quand on en parlait tout à l'heure avec Christelle Robière et Vincent Parisot, c'est un drame épouvantable, peut-être l'un des pires faits divers du 19e siècle, le plus honteux en tout cas, le calvaire d'un innocent que nous allons vous raconter avec mon invité, Jean Tellet. Bonjour Jean Tellet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, parce qu'il faut dire que cette histoire, sous le titre « Mangez-le si vous voulez », vous l'avez publiée sous forme d'un roman, il y a quelques années, aux éditions Julliard. Ça a été un très grand succès d'édition, parce que c'est un livre absolument passionnant. Ce livre devient maintenant une pièce de théâtre qui a été adaptée. C'est pas vous qui avez fait l'adaptation.
Je me suis occupé de rien, j'ai découvert la pièce le soir de la première.
Et ben moi, je l'ai découverte samedi dernier à Paris, au théâtre Tristan Bernard. C'est une réussite exceptionnelle, un spectacle vraiment à part. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on consacrera un moment ensemble à raconter comment on a pu traduire sur scène les événements épouvantables que nous allons raconter ensemble. D'un mot quand même, mangez-le si vous voulez. C'est un titre que vous avez pris parce que quelqu'un a prononcé cette phrase.
Mais oui, c'est une phrase du maire du village, qui un village donc dans le Périgord, qui s'appelle Hautefaille. Et le maire du village, voyant tout ce qui se passait, le bordel qui se passait dans son village, à un moment était complètement dépassé par les événements. Il a dit aux gens, après tout, faites ce que vous voulez, mangez-le si vous voulez. Et ben, ils l'ont fait.
Alors, tout à l'heure, nous allons vraiment décrypter cette affaire, revenir minute par minute sur le déroulement du drame. Mais tout d'abord, je vous propose de voir ensemble, en quelques minutes, comment tout a commencé.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Nous sommes au matin du 16 août 1870. Ce jour-là, les nouvelles de la guerre engagée par Napoléon III contre l'Allemagne ne sont pas bonnes. Les défaites contre les Prussiens s'accumulent à Frochwiller, à Reichshofen, à Forbach. Les armées françaises reculent à la frontière. La guerre fraîche et joyeuse qu'on promettait tourne au désastre. Mais dans les campagnes françaises, où ceux qui savent lire et écrire sont encore peu nombreux, on ne lit pas le journal. D'ailleurs, les articles soumis à la censure du Second Empire ne s'étendent pas sur l'ampleur de la catastrophe. Le ton est patriote, la haine des Prussiens s'étale à longueur de colonne. L'actualité dans les campagnes françaises, c'est d'abord à cette époque et avant tout l'épouvantable sécheresse de cet été 1870, une sécheresse qui dure, qui menace les récoltes, les bêtes sont maigres, certaines meurent sur pied, le prix du bétail augmente, l'inquiétude générale se perçoit en particulier dans les foires paysannes qui se transforment de plus en plus en fêtes tristes. C'est le cas cette année à Hautefaille, un petit village de Dordogne qui abrite à peine une quarantaine d'âmes en temps normal, mais où sont quand même réunies ce jour-là près de 600 personnes venues de toute la région. Les deux auberges sont évidemment prises d'assaut, car la sécheresse s'accompagne de fortes chaleurs. Alors on boit le vin local, le vin de Noah, un breuvage qui tape sur les cornes, comme disent les paysans. Ce matin-là, un jeune noble de 32 ans, Alain de Monès, qui vient d'être élu au conseil municipal d'un village voisin, a décidé de se rendre à la foire de Hautefaille à cheval. Dans 3 jours, il doit être incorporé dans l'armée impériale pour aller lui aussi se battre contre les Prussiens. Il a en effet refusé de se faire remplacer, comme c'est la coutume à cette époque, par un paysan qui aurait tiré le mauvais numéro. Il tient à se battre, malgré sa patte folle, une jambe blessée dans un accident de cheval qu'il fait boiter et qui rend aux gens du pays sa silhouette familière. Il est connu de tous. respectée. Il a d'ailleurs déposé récemment un projet d'assainissement des marais de la région qui devrait permettre à l'eau d'être enfin canalisée pour irriguer les champs des agriculteurs de cette région. Il a également l'intention d'acheter à la foire une génisse. Pourquoi ? Eh bien pour l'offrir tout simplement à une fermière qui n'a pas de sous, qui a perdu la sienne quelque temps avant. Il a aussi rendez-vous avec un couvreur pour lui parler du toit d'un bâtiment de la propriété de ses parents, un toit à réparer d'urgence. Enfin, il doit également rencontrer un notaire à l'auberge afin de mettre ses affaires en ordre avant de partir à la guerre. C'est en arrivant sur place qu'un banal quiproquo va lui coûter la vie. Voici comment. Alain s'approche de son cousin, Camille de Maillard, un républicain convaincu, une grande gueule, comme on dit, qui ne mâche pas ses mots, et qui n'est pas très aimé dans la région, car chacun sait qu'il n'est pas favorable à l'empereur. Il est justement en train de lire, à haute voix, un article du journal local, Les Côtes d'Ordogne, qui raconte que les dernières batailles de l'armée française ont viré au désastre. Devant un auditoire déjà aviné de paysans illettrés, il insiste sur le mensonge de Napoléon III qui avait promis que cette guerre serait une balade de santé et qui se transforme en boucherie, comme à Reichshoffen. Autour de lui, les témoins qui ne savent pas lire s'indignent. « Vous mentez, lui dit-on. Vous ne lisez pas ce qui est vraiment écrit dans le journal. L'empereur qui a battu les Autrichiens en Italie et les Russes en Crimée, cet empereur ne saurait pas tenir tête aux Prussiens. Allons donc. » Et puis les Français ne reculent jamais. Camille Maillard insiste pourtant. « Mais je vous dis que la guerre est perdue. Les Français reculent partout. C'est là, écrit, dans le journal. » L'ambiance est de plus en plus lourde autour de lui, des cris fusent. « Il est pour les Prussiens, il a crié « Vive la Prusse !» La foule se fait menaçante et Camille est obligée de fuir dans un champ poursuivi par quelques villageois qui doivent cependant abandonner bien vite leur course à cause de leurs sabots. C'est alors que certains spectateurs de l'incident se tournent vers Alain de Molesse. « Vous avez entendu, lui dit-on. Il a crié « Vive la Prusse !» De Molesse répond que « Ben non, c'est impossible, son cousin criait cela. Et pourquoi pas abat la France » dit-il. C'est alors que quelqu'un dans la foule le reprend. « Vous venez de dire abat la France ?» Le jeune noble a beau vouloir s'expliquer, son compte est bon. Progressivement, les villageois vont se passer le mot. « Il vient de dire abat la France, c'est un espion, il est envoyé par la Prusse. » Et c'est sur ces accusations infondées que sera littéralement massacré le jeune Alain par au moins 200 personnes. 200 personnes qui, tout en allant boire à l'auberge, revenaient de temps en temps, le rouer de coups. Le jeune homme ne cessera pourtant jamais de crier tout au long de son supplice, tout au long de son calvaire. « Vive l'empereur !» Mais rien n'y fera. Même le courage du curé et des métayers de M. de Molesse qui... Ce courage ne permettra pas de le soustraire à une foule en liesse, avide de sang, désireuse de commettre un sacrifice pour calmer sa fureur. Une fureur née de la peur de l'envahisseur. Frappé de toutes parts, les yeux crevés, les phalanges tranchées au couteau de boucher, et même ferré à clous comme un animal, avant d'être brûlé vif sur une place, la place dite du lac desséché, une ancienne mare où on a l'habitude d'allumer le feu de la Saint-Jean. Impuissant face au carnage, le maire, dépassé par les événements, aurait même lâché cette phrase terrible. « Eh bien, mangez-le si vous voulez. » C'est justement ce que certains vont faire. Des femmes, dit-on, auraient récupéré la graisse sur le corps incendié pour en faire des tartines et les faire manger à leurs enfants. Le lendemain, les forces de l'ordre envahissent le village et ses environs pour tenter d'identifier et d'arrêter parmi les 600 personnes présentes la veille les principaux responsables de ce lynchage. Personne ne sera capable d'expliquer rationnellement ce qui s'est réellement passé. Aucun n'avait de casier judiciaire. Le procès de cette barbarie s'ouvrira devant la cour d'assises de la Dordogne à Périgueux, en session extraordinaire sous la présidence de M. Brochon, conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, et cela 2 jours après la défaite du 2 septembre et la proclamation de la Troisième République. 21 accusés seulement ont à répondre de l'assassinat de M. Alain de Molès, victime de la bêtise, victime de la barbarie aveugle d'un village qui avait cru trouver en lui le bouc émissaire de tous ses malheurs. C'est ainsi que Hautefaille est devenu, pendant de longues années, le village des cannibales.
RTL, Jacques Pradel, l'heure du crime.
Et nous allons nous retrouver avec Jean Telet qui a raconté par le détail cette épouvantable histoire dans son livre « Mangez-le si vous voulez » paru chez Fayard et qu'on peut toujours trouver bien sûr en livre de poche. Et puis, comme je vous le disais au début de l'émission, c'est maintenant une pièce de théâtre. On en parlera aussi.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Et nous sommes avec Jean Telet, romancier, écrivain, qui avait consacré tout un livre sous forme de roman. Mais en fait, Jean Telet, cette histoire, donc épouvantable, c'est une véritable enquête historique que vous avez faite pour raconter l'histoire.
Ah oui, tout est vrai, tous les noms propres, tous les détails. Et on sait tous les détails parce que au procès, tous les gens qui ont été condamnés ont été honnêtes, ont dit la vérité. Et quand vous, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a eu 21 personnes de condamnées, il y a eu effectivement à Périgueux que 21 personnes emprisonnées pour une seule raison, c'est qu'il n'y avait que 21 places de prison à Périgueux. Parce que sinon, c'est 600 personnes qui fallait. Et au tribunal, personne n'a chargé la victime, personne n'a dit « Oui, mais vous savez, un jour, monsieur de Bonneuil, s'il m'a mal parlé, rien !» Ils ont tous dit « Eh ben oui !» On le connaissait. Ouais. Eh ben oui, on l'aimait bien. Et on ne sait pas ce qui nous a pris. La comète a dû nous tomber sur la tête.
Oui, alors, on va y venir tout à l'heure.
Et donc, ils ont raconté tous les détails, c'est ça que je voulais dire.
Oui,
donc, comme ça, on connaît.
On va venir au procès tout à l'heure. On s'est posé la question, hein, quand même, de savoir si tout ça avait été spontané ou si il ne s'était pas passé quelque chose avant. On en parlera parce qu'à Châtellerault, quelques jours plus tôt, il s'était passé un incident où des employés des chemins de fer avaient été... avait molesté un camarade de travail parce qu'on le prenait pour un espion à la sortie de l'Allemagne. C'est très dur à se mettre ça dans la tête aujourd'hui, mais à l'époque on n'a pas encore inventé l'expression de la cinquième colonne, mais on voit des amis des Prussiens partout, quoi. On a peur.
Bien sûr. Non, puis les gens étaient paniqués, ils comprenaient rien à cette guerre entre la France et la Prusse. Une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu, hein, parce que la France et l'Allemagne étaient d'accord. C'est pour un détail une erreur de traduction. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1868, le trône d'Espagne s'est retrouvé vide. Donc, il fallait trouver un autre roi. Et chaque pays présentait un candidat. L'Allemagne avait présenté un candidat. La France n'en voulait pas, en disant si d'un côté on a l'Allemagne et de l'autre l'Espagne tenue aussi par un Allemand, on n'aime pas. Donc, Napoléon III demande à ce que l'Allemagne retire son candidat. Et le Guillaume Ier, l'empereur d'Allemagne, est d'accord. Mais il se trouve qu'il était en cure thermale à Ems. Et donc, il fait une dépêche où il dit que...
Le fameux télégramme d'Ems.
Et voilà, ouais, comme quoi, il n'y a aucun problème. Et sauf que dans la traduction de la dépêche d'Ems, il y a eu deux erreurs de traduction. Il y a eu le mot adjutante, qui en allemand veut dire émissaire, qui a été traduit par adjudant. Comme quoi, voilà. En tout cas, donc ça a été deux erreurs de traduction. Donc cette guerre a eu lieu sur un malentendu. Ouais. Et le drame d'Hautefaille a eu lieu aussi sur un malentendu. Quand tout à l'heure vous disiez de Molès,
un malentendu
disait,
au sens propre.
Et voilà. Ouais, ouais. Et par exemple, un écrivain comme Éric Emmanuel Schmitt me disait de ce livre, c'est un vaudeville tragique. Ouais. Et parce que c'est vraiment ça, ça a tous les ressorts du vaudeville, sauf que ça tourne en drame. Quoi.
Alors un tout petit mot d'abord sur la victime, Alain de Molès. Donc il est connu de tout le monde en plus. Tout le monde le connaît. Il y en a la plupart des gens qui sont là ce jour-là sont des amis d'enfance.
Bien sûr.
Ils ont été à l'école avec lui ou des voisins. Quoi.
Il était maire de Beaussac, un village qui se trouve à 3 km de Hautefaille. Il avait été élu quelques semaines avant à l'unanimité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui avait voté contre lui, quoi. Ouais. Et c'était, et en plus, ce type venait de déposer, comme vous le disiez, un projet d'assainissement de la Nisonne et tout pour faciliter la vie des gens de Hautefaille. Et un projet qui, longtemps après, a été mis en place et dont les gens, actuellement, de Hautefaille en bénéficient toujours. C'est un truc complètement cinglé. Mais les gens étaient dans un tel état de désespoir. Il faisait si chaud. Ils comprenaient rien à cette guerre. Le bétail crevait, tout ça. un moment...
Il y avait l'alcool. Hein.
L'alcool. Et à un moment, il fallait que ça soit de la faute de quelqu'un. Ouais. On a besoin d'un bouc émissaire. Ouais. Et quand vous parlez d'alcool, c'est vrai que là, il y a aussi eu le problème. C'est le curé d'Hautefay qui a essayé de calmer les gens en leur disant, venez boire le vin de messe. Sauf que le vin, c'était du vin de Noah. Parce qu'il y avait eu le phylloxéra en France. Ouais. Et tous les cèpes de vigne avaient crevé. On avait trouvé des cèpes très résistants en Amérique du Sud. Ouais. Sauf que ce qu'on appelait le vin de Noah. Ouais,
cépage, voilà. Cépage de Noah qui a été interdit
totalement
par la suite
interdit.
Parce qu'il rendait les gens aveugles ou fous.
Oui, hein. Oui, c'était ouais. De la cocaïne liquide.
Voilà.
Donc les mecs sous la chaleur défoncés à la cocaïne liquide, ils ne se rendent plus compte de rien. Quoi.
Alors, nous allons faire une pause dans cette émission. On va se retrouver ensuite avec Jean Tellet. Et là, on va donner le pédigré des principaux responsables. Parce que, comme dans tout phénomène de folie comme ça, collective, il y a quand même des gens qui portent une responsabilité supplémentaire. Ils se comptent quasiment sur les doigts des deux mains, en tout cas. Et on va vous dire qui ils sont vraiment et comment, effectivement, tout ça a pu continuer pendant des heures.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et nous revenons au calvaire épouvantable vécu tout au long de la journée du 16 août 1870 par ce jeune noble connu de tous, aimé de tous, et qui tombe dans cette folie collective à la suite d'un malentendu, d'un quiproquo. Bien sûr, si vous vous posez des questions sur l'histoire, sur l'authenticité de certains des détails particulièrement terribles qu'on trouve dans le livre de Jean Tellet, que maintenant tout le monde connaît, vous pouvez nous appeler au 3210 pour le téléphone, bien sûr, ou par courriel sur rtl.fr. Alors, maintenant, voyons qui a fait quoi. Celui qui est considéré, Jean Tellet, comme le meneur, est un de ceux, d'ailleurs, qui ne connaissait pas Alain de Menès. Il s'appelle François Chambord, il a 33 ans, il est maréchal ferrant, il n'est pas de Hautefay, d'ailleurs.
Oui, et d'ailleurs, c'est bien que vous parliez de ce Chambord, parce que ça a été le dernier qui est allé à la guillotine. D'ailleurs, il y a eu une histoire particulière. C'est une des très rares fois dans l'histoire du crime en France où la guillotine a été déplacée sur le lieu du drame. Et c'est là à Hautefay qu'on a mis la guillotine et qu'il y en a eu 4 qui ont été guillotinés. Et Chambord a été le dernier à aller à la guillotine, et il est allé à la guillotine en disant... Et pourtant, nous étions de braves gens. Ce qui est vraiment fort, ça.
Ouais.
Et d'ailleurs, donc il y en a eu 4 qui ont été guillotinés. Il y en a eu une dizaine qui sont retrouvés au bagne à Linou, en Nouvelle-Calédonie. Et alors, il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'il y avait une tradition au 19e siècle, quand quelqu'un arrivait au bagne, c'est qu'on lui donnait aux nouveaux arrivants des surnoms en fonction du crime qu'ils avaient commis. Ah. Et donc, les mecs qui sont arrivés au bagne se sont fait surnommer la grillade, bien cuit, à point. Et il y en a un qui s'est fait surnommer de Monet, du nom de sa victime. C'était Jean Campeau. Et ce Jean Campeau a fait 20 ans de bagne. Puis ensuite, il est resté là. Il s'est marié avec une canaque. Il a eu des enfants. Et il a déclaré ses enfants à la mairie sous le nom de Monet. Ce qui fait qu'encore maintenant, Nouvelle-Calédonie, il y a des Monet.
Oui. Mais à cause de l'un des assassins.
Voilà, exactement. Ouais. Et moi, j'y suis allé il y a 2-3 ans. Là-bas, j'ai rencontré un arrière-petit-fils de Jean Campeau, qui est devenu un archéologue là-bas.
Alors, il faut dire qu'il y avait deux Campeau Étienne et Jean, les deux frères, qui étaient agriculteurs et qui ont été donc condamnés, effectivement,
exactement,
à la déportation.
Et puis, il y en avait un qui s'appelait aussi Mazière, qui lui avait dit un truc, il s'était passé quelque chose de marrant, parce que le juge lui dit, mais pourquoi François Mazière, vous êtes comporté comme ça avec Alain de Bonnet? Il dit, mais moi, je savais pas, je croyais. Donc, tout le monde disait que c'était un Prussien, et le juge lui dit, mais enfin, vous le connaissiez, c'était votre voisin, vous l'avez bien reconnu.
Il était métayer, voilà. il avait 29 ans, je crois.
Et Mazière a répondu au juge, mais monsieur le juge, on pouvait pas le reconnaître, vous auriez vu sa tête, c'était un globe de sang, vous n'auriez pas reconnu votre mère. Ouais. Et ce qui a été aussi très curieux dans ce massacre, c'est que c'est comme si, dans une foule, comme s'il y a une intelligence collective, bêtise, mais enfin quelque chose de collectif. C'est-à-dire que pour que pour, on a, les gens ont senti qu'il fallait diluer le drame. C'est-à-dire qu'il fallait que tout le monde tape sur De Monet. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui avait planté un coup de fourchette dans l'œil, il se reculait pour que l'autre lui foute un coup de sabot,
qu'il se reculait pour que l'autre lui foute un coup de marteau.
Ouais. Et pour que tout le monde participe à ça, même les enfants, celui qui allumait le bûcher, c'était un gamin, Pouléoun, qui est de 5 ans, et où on a dit, bah, il faut faire comme pour le feu de la Saint-Jean, c'est le plus jeune qui allume le bûcher.
Voilà. Et on l'a envoyé chercher des allumettes.
Et voilà.
Alors, il a bien entendu pas été condamné.
C'était le seul, ouais.
Il était déféré.
Bien sûr.
Alors, il y a eu aussi un Pierre Outy, Léonard, qui lui avait une cinquantaine d'années, qui était un chiffonnier.
Ouais.
Et qui est un personnage important.
Et
dans l'histoire.
Et qui avait eu son fils qui avait été, dont il venait apprendre que son fils avait été mitraillé à Forbach. Et
donc son fils était une des victimes de cette fameuse guerre.
Exactement.
Et quand il a cru entendre que l'autre disait vive la Prusse.
Et voilà. Et ce chiffonnier se baladait avec un crochet dont servait beaucoup les chiffonniers à l'époque pour soulever, porter les sacs et pour connaître le poids des sacs. Ouais. Et à coup de ce crochet, il a massacré le crâne
c'est
de
C'est certainement
de
lui qui a porté le coup fatal d'ailleurs. Parce qu'il y a une question qu'on se pose. C'est d'abord l'extraordinaire endurance
qui avait été refusé à l'armée pour faiblesse de constitution.
Ouais.
Putain, dis donc. Et il s'en est pris deux heures. Et à un moment, ils l'ont écartelé. Et ça, on ne sait même pas comment c'est possible. Ils ont tenté de l'écarteler, mais ils étaient tellement bourrés qu'ils glissaient dans le sang.
En fait, ils l'ont déchaussé.
Ils ont déboîté des os et tout. Ouais. Et il a réussi de mener sa courir un petit peu pour se planquer avec les os tout déboîtés et tout.
C'est horrible. Alors, il faut dire que il y a également Buisson, il faut pas l'oublier peut-être, Pierre Buisson, dit Arnaud. Là, quand on a cité donc Chambord, Buisson, Mazière et les frères Étienne et Jean Campeau, on a à peu près le noyau dur.
Il y a eu aussi des gens exemplaires, il y en a eu 5.
Alors voilà, c'est ça. Il y a des gens qui ont essayé de défendre et de protéger. Parce que, en fait, il faut dire aussi, Jean Tellet, que le massacre va s'étaler dans le temps, mais va s'étaler dans des lieux différents du village.
Mais oui, c'est comme un chemin de croix. On raconte que le Christ a eu 14 stations. Là, De Monet en a eu 13. Il a dû rien lui manquer. Hein. Mais ils ont commencé par vouloir le pendre à un cerisier. C'est là que j'ai appris que c'était une très grave erreur. Il faut jamais vouloir prendre quelqu'un à un cerisier parce
ça
que
casse.
Ça casse. C'est le bois, il casse. Après, donc, ils l'ont emmené chez le maréchal Ferrand.
Donc, attendez. Excusez-moi, ils ont commencé à lui taper dessus.
Voilà.
Ça, c'est une algarade de foire, ouais. De gens bourrés. Ça pouvait s'arrêter après quelques coups de poing. Pourquoi ça continue ?
Parce qu'après
les coups de poing, c'est
dans
outils,
un engrenage, et voilà.
Et alors,
il fallait le déshumaniser. Il fallait plus que ça soit un humain. Et c'est pour ça qu'ils l'ont ferré comme un animal.
Ils ont vraiment enfoncé des clous.
Ah oui, oui, oui.
Dans sa plante.
Ils ont explosé. Voilà, ils ont mis des fers, ils ont planté des clous comme on fait un animal pour le déshumaniser.
Pour ça, ils l'ont emmené chez le maréchal Ferrand du village.
Exactement.
Où il y avait, je sais plus comment ça s'appelle, là où on fait entrer les.
Ouais,
les chevaux pour les canaliser, quoi.
Exactement.
En fait.
Ouais. Et puis ensuite, le maire du village, lui, parce que les 5 qui étaient magnifiques, qui essayaient de calmer la foule en disant, mais vous devenez tous fous. Putain, c'est votre voisin.
Oui.
C'est Alain de Monet. Mais non, c'est un Prussien. On va y foutre sur la gueule. Et les mecs disaient, mais qu'est-ce qu'un Prussien viendrait foutre tout seul à Hautefaille, en pleine guerre. Mais plus personne comprenait plus rien, quoi.
Ouais.
Et,
alors, on va faire une pause rapide. On va revenir sur ceux qui ont défendu Alain de Monès et sur le personnage du maire, quand même.
Ouais.
Et puis, il y avait des femmes.
Oui,
alors, elles ont eu un rôle
qui était pas mieux. Ouais.
Voilà. Alors, on va en parler dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Nous sommes aujourd'hui avec Jean Tellet, invité de l'heure du crime, pour évoquer cet épouvantable fait divers du 16 août 1870 qui a vraiment marqué la France de l'époque. Une affaire quand même qui a fini par faire la une de l'actualité, qui a été jugée d'ailleurs au tout début de la Troisième République, ouais. et dont le point de départ est cette guerre franco-allemande perdue par Napoléon III.
Et avec quelque chose de curieux, c'est que quand tout à l'heure vous disiez que Napoléon III le 2 septembre avait été arrêté, oui, à Sedan, ensuite on est passé à la Troisième République, et une des premières décisions, des hésitations du gouvernement de Gambetta, ça a été de: est-ce qu'on supprime le village? Genre, on rase, oui, le village. Oui. Ce village n'a jamais existé, cette histoire n'est jamais arrivée. Oui. Et le gouvernement s'est vraiment posé la question. Oui. Finalement, à garder le village.
Parce que vous avez raison d'en parler, parce que il faut dire, on l'a pas encore dit, mais que le maire, dont on va parler maintenant, dans quelques instants, a été destitué à la suite.
Ouais,
et on a nommé quelqu'un en attendant d'autres élections.
Exactement.
Et c'est dans cette période de temps qu'on s'est dit, et si on supprimait...
Et voilà. Et après ce drame-là, Alain de Monès, qui habitait chez ses parents, juste à côté d'Hautefaille, la mère est morte quelques semaines après de chagrin, de désespoir, ouais, et le père a vendu toutes les terres et a quitté la région parce qu'il voulait pas tous les jours croiser des gens qui avaient bouffé son fils, quoi.
Bien sûr. Alors, ceux qui ont aidé, vraiment, qui ont tenté d'empêcher
quel courage,
cette folie, avec beaucoup de courage, parce qu'il y avait beaucoup de violence, l'abbé. Alors, l'abbé Victor Saint-Pasteur,
ouais,
c'est le curé de Hautefaille. À un moment, il y a les amis d'Alain de Bonnès vont le chercher au presbytère en lui disant: attendez, il y a une folie, on est en train
exactement
de tuer. Et il y va.
Hein,
il est courageux, il a une arme.
Il y va avec un fusil et il menace de tirer dans la gueule de ceux qui s'approchent de Monès. Voyons, ouais, qu'il est complètement débordé lui aussi, et que tous ces gens-là avaient envie de picoler puis qu'ils n'avaient pas de sous. Il dit: venez à l'église.
Ouais, parce qu'il se dit, si
voilà,
je tire, j'en tue un.
Et
mais
ben voilà, il y en a 500 aussi, autres, ouais, qui... Et donc, ouais, ils emmènent.
Venez goûter le vin.
Voilà, percer les tonneaux, venez picoler. Et là, c'est là qu'ils ont, malencontreusement, ils ont bu ce vin qui rendait encore plus dingue.
Encore,
donc, ils picolaient chez le curé, et après, ils y retournaient. Et à la fin de ces deux heures, parce que toute cette histoire a duré deux heures, parce que de Monet, il s'est arrivé à l'entrée de Hautefaille à 14h, à 16h, il était bouffé. Ça a duré deux heures. Et le curé était ivre mort au pied du Christ.
Oui, parce qu'il avait bu, pour essayer de retarder l'inéluctable, en fait.
Ouais.
Alors, il y avait Philippe Dubois.
Ouais.
Philippe Dubois, sieur de bois, d'ailleurs. Ouais. Il y avait Georges Mathieu, un artisan de la région. Il y avait Bernard Mathieu. Alors, on va parler
lui, c'est
maintenant
le maire.
C'est le maire. Oui, mais à un moment, Georges Mathieu, puisque le maire est son neveu, il va à la mairie. Le maire, lui, il entend bien qu'il se passe des choses dans le village. Il n'est pas apparu, hein.
Non. Et puis quand tout le monde disait au maire, mais faites-le rentrer chez lui, ce de Monet, du moins chez vous, protégez-le.
Ouvrez les portes. Oui.
Et la femme du maire a dit: mais vous plaisantez, on va pas le faire rentrer chez nous.
Ils vont tout
casser et tout. Et c'est là que, comme Ponce Pilate, je parlais tout à l'heure de chemin du Christ pour de Monet, ouais, et Bernard Mathieu, c'était Ponce Pilate, il s'en est lavé les mains. Démerdez-vous avec, quoi.
Voilà. Alors, il faut dire la vérité historique, c'est que le fait qu'il ait prononcé ces fameuses paroles, faites ce que vous voulez, finalement, mangez-le si vous voulez, ça a été dit dans le procès en cour d'assises par,
ouais,
un témoin auditif.
Ouais.
Le maire a nié farouchement,
ouais,
et la personne qui avait parlé a retiré sa plainte. C'est pour ça que les gens du coin ont aimé beaucoup, pendant les années suivantes, qu'on se pose vraiment la question de savoir,
ouais,
si ce fait divers était allé jusqu'au cannibalisme, en fait.
Mais, d'après des témoignages, il semblerait bien, ouais, puisqu'on parle même de Madame Lachaud, l'institutrice, la femme de l'instituteur, dont ouais, on raconte que quand il était en train de brûler de Monet, avec une pince à feu, elle essayait de lui choper les couilles pour lui bouffer ses rognons grillés, quoi, tout ça. Enfin, c'est...
C'est... Tout ça, vous sortez ça évidemment de l'analyse des textes historiques, des minutes du procès.
Exactement, et c'est une histoire où à Hautefaille, ils veulent plus du tout en parler de ça. Le maire actuel plusieurs fois a proposé à la population de faire mettre une plaque genre la population de Hautefaille regrette ce qui s'est passé et tout. Et ben la population a toujours refusé ce truc-là. Et alors moi, ça m'a gonflé ça. Et quand je sortais le livre, je disais que si mon livre marchait bien, j'allais ouvrir un petit resto dans ce village que j'allais appeler à la grillade d'Hautefaille.
Vous étonnez que le maire soit nerveux. Avant votre bouquin, il voyait arriver des gens avec le guide du retard. Ils ont le livre de Jean Tellet.
C'est
insupportable.
C'est que l'été, les gens.
Ils n'ont rien fait, les gens d'aujourd'hui.
Bien sûr, mais les gens arrivent maintenant l'été en Bermude à fleurs avec mon livre. Et comme j'ai mis à chaque chapitre, je mets le plan pour savoir où s'est passé tel endroit et tout. Les gens, ils visitent le village comme avec le guide bleu. Et comme le village n'est pas très bien indiqué, les gens arrivent souvent dans le village et quand ils voient une dame, excusez-moi madame, le village des cannibales, c'est bien ici. Donc ils peuvent pas me saquer. Et je crois que c'est France 3 Région, je sais pas quoi, qui était allé faire des interviews des gens du village où ils disaient de moi que je ferais bien de pas y retourner à Hautefaille parce qu'ils pourraient bien en bouffer un deuxième.
Alors, il faut dire la vérité. En 1953, Noémie Laveau, qui était la dernière personne encore vivante à avoir été témoin de l'affaire, donc c'est elle l'institutrice?
Non, c'était Madame Lachaud.
D'accord, pardon. Alors, Noémie Laveau, en tout cas.
C'était une gamine à l'époque.
Elle meurt en 53, à l'âge de 92 ans. Et un siècle exactement après l'affaire, c'est-à-dire le 16 août 1970, il y a eu dans le village une messe de pardon célébrée dans l'église de Hautefaille en présence des descendants de la victime et en présence des descendants des quatre condamnés à mort. Et le maire du village, comme vous le disiez, qui est toujours le même d'ailleurs, je crois.
Depuis longtemps en tout cas.
Francis Donnary a proposé depuis 1977 qu'il est maire, a proposé d'installer cette stèle pour marquer, mais...
Et la population a toujours refusé.
Oui, parce qu'il y a la honte dans le village.
Et une des seules entreprises qu'il y a dans le village, elle fait du fromage de tête. Et c'est formidable.
Remettons-nous, faisons une pause et on se retrouve dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
L'invité de l'heure du crime, c'est le romancier Jean Tellet. Son livre, Mangez-le si vous voulez, a été, si j'ose dire, et sans mauvais jeu de mots, dévoré par des milliers et des millions de personnes depuis sa parution. On le trouve maintenant en livre de poche. L'édition originale était chez Julliard. Et puis, cette histoire vraie, on va y revenir parce qu'il y a des auditeurs qui demandent des dates, qui demandent si c'est bien vrai tout ça. Mais parlons deux secondes de cette adaptation théâtrale. Ça se passe au théâtre Tristan Bernard à Paris. C'est un grand succès parce que ça a déjà été prolongé deux fois. Et c'est une pièce qui est jouée en alternance, donc une fois à 19h, une fois à 21h. Moi, je l'ai vu samedi dernier à 21h. Alors, je voudrais simplement, d'abord, ils sont pas là, donc on peut les faire rougir, dire le plus grand bien de Clotilde Morgièvre et Jean-Christophe Dolé, qui sont les deux principaux acteurs. Mais il faut pas oublier les autres non plus. Mais là, il y a une vraie performance d'acteurs. C'est un spectacle extraordinaire qu'on définit, Jean Tellet, comme un spectacle électro-rock culinaire.
Voilà.
C'est pas étonnant quand on vous connaît.
Et il y a une cuisine sur scène.
Alors, il y a une cuisine, ça sent d'ailleurs. On cuisine sur scène.
Et au début, ça sent bon. Oui. Il faut frire des oignons.
À la fin, ça sent pas mauvais. Il y a de la fumée.
Ça devient de moins en moins appétissant. Et à la fin, la cuisine devient une table de torture. Toute la nourriture est défoncée à coups de feuilles de boucher et tout.
Il y a deux comédiens musiciens. C'est très important pour le spectacle. Mehdi Bourrel et Laurent Guillet.
Un au clavier, l'autre à la guitare électrique.
Et la musique est presque un personnage de la
pièce. C'est une pièce absolument formidable. Et moi, je peux le dire ça d'autant plus facilement que je n'y suis pour rien, que j'ai découvert le spectacle le soir de la première. Et Jean-Christophe Dolé, je lui disais, mais c'est un boulot de rockstar que tu fais sur scène. Il fait tous les rôles, pratiquement. Clotilde Morgièvre, elle fait tous les rôles féminins, dont le personnage d'Anna Mondou, dont on parlera parlera peut-être tout à l'heure, parce qu'en plus, là-dedans, il y a une histoire d'amour, c'est ça qui est incroyable, en plus.
Absolument. Il y a aussi, alors c'est très inventif, évidemment, et c'est un vrai spectacle vivant, il y a une bande sonore, il y a des voix off, il y a des documents, il y a de l'image également, et puis il y a effectivement ce...
Il y a de l'humour, on rit.
Noir.
Mais on rit, puis après on rit plus du tout et tout, et voilà. Puis il y a de la poésie, à la fin ça se termine sous la neige, machin, enfin c'est vraiment un spectacle extraordinaire, je comprends qu'il ait beaucoup de succès.
Ça. Donc on parle rarement ici de théâtre, c'est pas mon métier de faire la critique des pièces de théâtre, mais je vous assure que vraiment, on n'est pas volé, quoi, et on passe un moment. Ça montre aussi le fait que cette histoire que vous avez choisie pour en faire le cœur d'un roman, c'est une histoire universelle. Quand on disait au début de l'émission, des monstres comme ça, il y en a en chacun de nous.
Ça s'est reproduit depuis. Ça s'est même reproduit il n'y a pas très longtemps, l'automne dernier à Madagascar, avec notamment ce Français qui était
soupçonné de pédophilie.
Ce qui est incroyable, quand on regarde sur Internet, moi j'ai cherché, on trouve la voix d'une femme qui va voir ce type à Madagascar, qui est accusé d'avoir massacré un môme, et qui lui dit d'une voix très calme, mais vous aimez les enfants, vous aimez pas? Ah, moi j'aime les enfants. Ah, vous aimez les enfants? Et puis l'autre, mais non, en fait.
Vous avez dit à la France.
Ah, vous n'aimez pas les enfants, quoi qu'il réponde, le mec il était foutu, quoi.
Voilà, exactement.
C'est un phénomène de foule, les gens ont besoin d'un bouc émissaire, et dans toutes les civilisations.
Comme ça qu'il y a eu des gens dans les camps de concentration.
Mais bien sûr, et puis.
Qui jouaient au piano le soir avec leurs enfants sur les genoux, hein.
Mais oui, et puis, par exemple, au Mexique, je sais pas quoi, dans les civilisations antiques et tout, on avait toujours besoin s'il faisait pas assez beau ou trop beau, je sais pas quoi, de sacrifier quelqu'un. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'on n'en profitait pas pour sacrifier le plus con du coin. On prenait toujours la jeune fille vierge et innocente. Voilà. Tout comme à Haute-Faille, ça aurait pu tomber sur l'abruti de la région. Eh ben non, on a pris le mec le plus gentil.
J'ai peur qu'on n'ait pas le temps qu'on oublie de parler d'Anna. Alors il faut en parler parce que il y a eu des femmes dans cette histoire. Et celles au pluriel qui ont, selon en tout cas des témoignages récurrents donnés au procès, trempé des tranches de pain dans la graisse pour les faire manger
les mères, elles disaient,
aux enfants.
Elles tartinaient avec la graisse de Monet en disant, tiens, les enfants mangez pour une fois qu'on peut mettre quelque chose sur vos pains. Et quand le corps brûlait, que les premiers ont commencé à bouffer de Monet, il y a des gens qui demandaient ça a quel goût. Et les gens ont répondu, on dirait du veau. Alors putain, ils y sont tous allés. Bon.
Alors, Anna, c'est qui?
Anna Mondou, c'était une jeune fille qui était quasiment illettrée, qui était en train d'apprendre à lire et écrire à ce moment-là, et qui s'est sacrifiée dans une étable où à un moment on avait réussi à planquer de Monet, mais les gens passaient par le toit et tout, puis
les amis de ceux qui voulaient lui sauver la vie, comme le maire refusait de le mettre dans la mairie, ils ont trouvé une étable à boutons, ils l'ont mis dedans, ils ont barricadé les portes.
Voilà. Et là, il y avait cette Anna Mondou, qui était une toute jeune fille d'une vingtaine d'années, amoureuse de Monet, et de Monet amoureux d'elle. Et arrive un jeune type qui s'appelait Tibassou, qui allait pour massacrer de Monet, et elle s'est offerte à Tibassou. Et 6 mois.
Pour retarder la mise à mort, quoi.
Et 6 mois après, cette Anna Mondou, qui est enterrée à Haute-Faille, on l'a retrouvée dans la neige, enceinte, et à côté d'elle, dans la neige, elle avait écrit Je t'aime. Et donc tout le monde s'est dit mais quand elle a pu être enceinte, quand même pas mise enceinte le jour du massacre, et si ça se trouve oui, et donc ça c'est une histoire d'amour qui se termine aussi de façon irréelle et tout, c'est la fin du spectacle.
C'est un des moments les plus forts du spectacle.
Moi ça m'a collé les larmes aux yeux, alors que c'est moi qui ai écrit le livre.
Comme vous voyez. Alors évidemment maintenant cette histoire est très ancienne, je comprends quand même l'agacement des gens du village, mais enfin...
Je me dis que tout le temps qu'ils n'auront pas décidé de mettre une plaque commémoratrice, j'ai pas fini de les emmerder.
Vous me lotez de la bouche, j'allais dire, mais qu'est-ce qui les empêche finalement de mettre... je sais pas, il y a encore des descendants, forcément, il y en avait dans les années 50,
Les mêmes noms,
et en 1970 aussi.
On regarde,
je parle des descendants de la victime.
Bien sûr. Moi, j'en ai rencontré plein dans les trucs de dédicaces. dédicaces des gens qui me disent, ah, je suis le petit-fils de Mazière, la petite-fille de tout ça. Dans la famille, on n'en parle jamais.
Jean-Telet, vous mettriez quoi sur la plaque?
Haute-Faille regrette ce qui s'est passé le 18 août. Voilà, boum.
Tout simplement.
Parce que les gens actuels, eux, évidemment qu'ils y sont pour rien, ils n'étaient pas nés. Mais ça ne coûte pas grand-chose de foutre une plaque. Alors maintenant, il paraît qu'il y a des jeunes qui foutent des affiches sur l'église et tout, où il y a écrit « Jean de Haute-Faille, du sang d'assassin coule dans vos veines ». Ce qui n'est pas terrible non plus.
Non, mais, c'est pas terrible.
Mais qui mettent cette plaque, bon sang.
Voilà. Bah, écoutez,
je veux même bien la payer.
D'accord, bah écoutez, vous venez de le dire devant témoin, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je rappelle, le titre du livre, c'est « Mangez-le si vous voulez », donc qu'on trouve en livre de poche, bien sûr. « Mangez-le si vous voulez », c'est le titre du spectacle aussi qui a lieu à Paris, au Théâtre Tristan Bernard, tous les soirs, soit à 19h, soit à 21h. Vraiment, si vous êtes, si vous passez par Paris ou si vous êtes à Paris, allez-y, vous ne perdrez pas votre soirée. L'émission est maintenant terminée. On retrouve Flavie Flamand dans un instant.